Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
La situation sanitaire se détériore un peu partout en Europe, mais la France est aujourd'hui l'un des États les plus touchés par les nouvelles contaminations à la Covid-19. En France métropolitaine, la circulation virale, déjà à un niveau élevé, continue de progresser. Le nombre de cas confirmés, les taux de positivité des prélèvements, notamment chez les personnes présentant des symptômes. Les nombres de cas confirmés dans les établissements d'accueil pour personnes âgées sont en augmentation. Au niveau hospitalier, le nombre des nouvelles hospitalisations, les admissions en réanimation et les décès survenus à l'hôpital poursuivent leur augmentation. Pour contrer la propagation du virus, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, dont l'instauration d'un couvre-feu. Alors, comment faire face à cette deuxième vague épidémique ? Nous en parlons avec nos invités ce matin. Sophie Fégueux est médecin infectiologue. Elle est chargée d'expertise et de projet sur les risques infectieux à Santé publique France. Et le docteur Anno Marin nous rejoint également. Il est basé à Abidjan. Il est le directeur de l'espace médical La Pyramide. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors tout d'abord, Sophie Fégueux, bonjour. Est-ce que la situation de l'épidémie est inquiétante en France aujourd'hui ?
Bonjour. Alors, c'est vrai que depuis la rentrée et surtout depuis le début du mois d'octobre, on voit qu'il y a une nette aggravation des chiffres. Donc, vous avez bien expliqué que ce soit le nombre de nouveaux cas, le nombre de gens hospitalisés, en particulier en réanimation. Donc, à l'heure actuelle, on est entre 25 et 30 000 nouveaux cas par jour, ce qui est quand même très, très important. Et surtout, comme vous l'avez bien dit, une augmentation régulière des hospitalisations et des passages en réanimation. Et en réanimation, on s'approche de la moitié des lits de réanimation qui sont occupés par des personnes atteintes de Covid.
Avant de continuer avec vous, docteur Sophie Fégueux, on va tout de suite à Abidjan voir avec le docteur Anno Marin quel est l'état de la situation de l'épidémie en Côte d'Ivoire. Docteur Anno Marin, bonjour.
Bonjour Nadie.
Bonjour. Quel est l'état de la situation de l'épidémie en Côte d'Ivoire aujourd'hui ?
Alors par contre, à Abidjan, contrairement à ce qui se dit en France, nous semblons avoir une évolution favorable puisque nous avions des cas de contamination les moins élevés. Actuellement à Abidjan, nous avons dépassé les 20 000 cas, c'est vrai. Nous sommes autour de 120 décès. Et puis, Abidjan reste la ville la plus touchée, la plus infectée.
Est-ce que vous diriez que l'épidémie est sous contrôle actuellement en Côte d'Ivoire ?
Alors, le dire, ce serait peut-être anticipé. De mon point de vue, dans l'exercice de ma profession médicale, lorsque je demande les tests, même pour les voyages, aujourd'hui c'est une obligation, nous avions presque toutes les demandes qui reviennent négatives. Donc, aujourd'hui, en attendant que les voix officielles le disent, moi, pour moi, je constate qu'il y a une nette amélioration au niveau de la contamination.
Alors, Sophie Fégueux, cette deuxième vague était attendue, mais est-ce que vous attendiez à cette augmentation rapide du nombre de cas depuis le mois de septembre ?
Alors, on craignait quand même que ce virus, qui semble quand même être un virus un peu hivernal, on craignait qu'il y ait une augmentation à l'automne et à l'hiver. Ceci dit, c'est vrai qu'au mois de septembre, c'est arrivé plus rapidement que ce qu'on pensait. Et l'augmentation qu'on a actuellement, c'est vrai qu'elle arrive avec l'arrivée du froid. Donc là, on n'est pas tellement surpris, mais c'est vrai que les chiffres sont particulièrement élevés.
Sophie Fégueux, quel est le profil des patients hospitalisés et en réanimation actuellement ? Est-ce le même type de profil que ceux hospitalisés au cours du printemps dernier ?
Alors, sur les données qu'on a, mais bien sûr, ça se modifie au fur et à mesure. On a l'impression qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui sont des gens âgés et des gens qui ont des facteurs de risque, mais quand on voit ce qui se passe en réanimation, on a l'impression qu'il y a quand même des gens plus jeunes, c'est-à-dire on a à peu près un tiers des gens qui ont moins de 65 ans, donc c'est pas que des gens très âgés, quoi.
Alors pourquoi une reprise si forte en France, en Espagne, au Royaume-Uni, alors que l'Italie et l'Allemagne subissent une augmentation bien moindre du nombre de cas, Sophie Fégueux ?
Alors d'abord, on ce qu'on voit maintenant, c'est qu'en fait, tous les pays d'Europe sont touchés. Donc, c'est pas que la France. Après, vous avez raison, c'est des degrés plus ou moins importants. Donc, l'Espagne et la France ont été les premiers touchés de façon importante. En fait, on voit que même si on prend, par exemple, le cas de l'Allemagne, hier, il y a eu 11 000 nouveaux cas. Donc, on a l'impression qu'ils ont peut-être une situation comme la nôtre, mais avec un certain décalage, peut-être de 3 ou 4 semaines. Mais en fait, c'est un problème général en Europe. Il y a des pays qui sont encore plus touchés que nous. Si on prend, par exemple, la Belgique, la Hollande, la République tchèque... voilà, donc, mais toute l'Europe à l'heure actuelle est touchée. Même des pays qui finalement, au printemps, n'avaient pas été tellement touchés. La République tchèque, ils n'avaient pas été très touchés.
Cette augmentation est-elle, selon vous, une conséquence d'un relâchement concernant l'application des mesures barrières durant l'été ?
Alors oui, comme vous le dites, hein, on a bien vu qu'à la sortie du confinement, malheureusement, alors que les gens avaient été quand même... très très nombreux à très bien suivre toutes les mesures. Il y a eu quand même un certain relâchement pendant l'été. La seule chose qui finalement s'est bien améliorée, c'était le port du masque. Donc ça continue à augmenter régulièrement. Alors encore faut-il bien le porter et bien le mettre en particulier sur le nez. Hein, on voit pas que le virus il est dans le nez, donc il faut mettre ce masque sur le nez. Alors par contre, les autres mesures, ça s'est plutôt stabilisé, mais ce qui pose le plus de problèmes, qui continue à baisser, c'est les regroupements, en fait, les regroupements avec les amis, avec la famille, et les rassemblements festifs. Donc, toutes ces mesures-là, il y a vraiment de gros progrès à faire, à continuer à faire.
Alors, est-ce que vous notez des différences par rapport à la première vague du printemps dernier, docteur Sophie Fégueux ?
Il y a quand même des différences. D'abord, heureusement, on connaît mieux la maladie. Hein, donc, on voit qu'au niveau, par exemple, des hôpitaux, on sait mieux faire, on sait mieux soigner, on sait donner des corticoïdes, utiliser mieux l'oxygène. Il y a évidemment beaucoup plus de tests. Donc, ça, c'est peut-être la grosse différence. C'est que maintenant, on teste très largement, donc ce qu'on ne faisait pas du tout, évidemment, au mois de mars. Donc on peut repérer les personnes positives et on peut leur recommander de s'isoler pour éviter de contaminer les autres. Donc ça, c'est quand même une grande différence.
Concernant les tests, justement, on parlait il y a quelques mois des tests, des autotests qui seraient disponibles en pharmacie. Où ça en est ?
Alors, c'est pas les autotests, mais depuis quelques jours, donc il y a la possibilité de faire les tests antigéniques, c'est des tests rapides. Donc en fait, c'est pas des autotests, c'est toujours un professionnel de santé, que ce soit un médecin, un pharmacien, un infirmier qui peut les faire. Donc c'est dans le nez toujours, hein, avec une espèce de coton-tige. Mais la grosse différence, c'est qu'on peut avoir le résultat en une demi-heure. Donc c'est le même prélèvement, mais par contre, on a le résultat très vite sur place. Donc ça, c'est possible depuis le 16 octobre. C'est remboursé depuis le 16 octobre.
Docteur Sophie Fégueux, pour contrer la propagation du virus, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, dont l'instauration d'un couvre-feu. En tant que médecin, pensez-vous que cette mesure peut permettre le ralentissement de la propagation du virus ?
Alors oui, on espère que ça va être efficace. Hein. On a un très bon exemple en France, la Guyane. La Guyane, vous savez, il y a eu des gros soucis cet été. Donc, il y a eu des couvre-feux qui ont été mis en place. Le couvre-feu a été mis en place. Et finalement, ça a vraiment permis en quelques semaines de contrôler l'épidémie, bon, qui existe toujours, mais c'est plus du tout les chiffres qu'il y avait. Et on a pu complètement desserrer la pression qu'il y avait sur les hôpitaux. Donc, voilà, ce que la Guyane a fait, on pense on espère vraiment très, très fort que ça va se passer de la même façon en métropole. En particulier dans les grandes métropoles, puisque c'est dans les grandes métropoles qu'on a mis en place ce couvre-feu.
On retourne à Abidjan avec le docteur Anou Marin. Alors, docteur, des institutions comme l'OMS ont annoncé une catastrophe pour le continent africain. Or, elle n'a pas eu lieu. Pourquoi l'Afrique échappe au pire pronostic, selon vous ?
Alors, je pense que, comme le disait Sophie, les autres l'ont dit aussi bien avant, lorsque nous avions préparé le plan de riposte, même nous ici en Côte d'Ivoire, on avait prévu des pires catastrophes vu ce qui se passait en Asie, en Chine et puis en Europe. Alors, Qu'est-ce qui a fait que l'Afrique, particulièrement la Côte d'Ivoire, mon pays que je connais mieux, a pu répondre? C'est que nous avions d'abord, un, l'expérience de la gestion de ce genre de pandémie. Rappelez-vous qu'avec Ebola, malgré le fait que toute l'Afrique de l'Ouest soit contaminée, nous avions eu zéro cas à Abidjan. Et nous n'avions pas eu de cas alarmants à Abidjan. Donc l'expérience de l'équipe sanitaire à Abidjan a puisé beaucoup dans cette approche. Deuxièmement, est-ce que les facteurs environnementaux ont joué pour quelque chose? Est-ce que le fait que nous soyons en contact avec certaines souches de coronavirus favorisait cela? Est-ce que les vaccinations, le calendrier et l'âge de vaccination qui est fait à l'enfance, qui est obligatoire pour certaines pathologies dont le virus semblerait avoir certaines identités avec celui du coronavirus, favorisait cela? Je pense que le facteur race n'est pas très très favorable, parce que nous voyons ce qui se passe aux États-Unis. Nous voyons ce qui se passe dans les îles où on a les Noirs qui sont aussi infectés que... Donc je pense qu'il y a plusieurs autres plusieurs cas qui ont favorisé le fait que, bon, particulièrement en Côte d'Ivoire, nous avions pris le taureau par les cornes, nous sommes allés beaucoup plus dans la prévention.
La circulation en Afrique depuis longtemps de coronavirus, autre que la Covid-19, pourrait expliquer que beaucoup de personnes développent des anticorps qui atténuent les formes graves et asymptomatiques, selon vous?
Oui, c'est ce que je vous disais. Le fait que nous soyons, que nous ayons rencontré certaines formes de coronavirus à certains moments de notre vie permettrait de développer des anticorps qui vraiment lutteraient contre les formes les plus graves. Parce que pour ce que je sais et ce que j'ai vu comme qui en sont décédés de cette pathologie, c'est des personnes qui avaient des facteurs de risque de comorbidité, que ce soit une hypertension artérielle, une insuffisance rénale, et qui étaient déjà infectées par un autre virus, celui de l'hépatite ou bien du VIH, ou qui avaient une hypercholestérolémie, qui avaient des pathologies qui constituaient des facteurs de risque. C'est ces personnes-là qui, dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, je dirais même 90% des cas, en sont décédées du coronavirus.
Est-ce qu'on parle aussi de deuxième vague sur le continent et en Côte d'Ivoire, docteur Anomara?
Alors, effectivement, si cela a eu lieu en Asie et en France, bon, est-ce que il faut exclure cette probabilité d'une deuxième vague en Afrique? Je dirais non. Mais vu l'expérience que nous avions et puis vu ce qui se passe avec les autres, l'équipe de riposte sanitaire, je pense, baisse pas les bras et s'attelle aujourd'hui maintenant les mesures de circulation des personnes sont beaucoup plus contrôlées. Et mon inquiétude personnelle en tant que médecin, c'est qu'aujourd'hui, c'est les vacances scolaires. Il y a beaucoup, ce que l'on dit, expatriés, c'est-à-dire d'Européens vivant en Côte d'Ivoire, qui retournent pour les vacances de la Toussaint. Lorsque ceux-là reviendront, quels seraient les facteurs de risque? Donc, quand on sait qu'aujourd'hui, en France, on a une montée des chiffres de contamination, est-ce que le retour des vacances ne serait pas pour nous une source d'inquiétude? Ça bouge beaucoup, ça voyage beaucoup dans les pays infectés. Or, quand on sait comment l'infection est arrivée en Côte d'Ivoire, c'est cela qui nous fait craindre une deuxième vague. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes en pleine activité politique qui sollicite des rassemblements pour des activités politiques. Et puis, on n'a pas encore arrêté totalement avec nos phénomènes sociaux. Mariage, baptême, funérailles. Et vu que les chiffres sont nettement bien, est-ce que les gens ne baissent pas de vigilance, ne baissent pas de garde, se laissent faire?
Docteur Anomarin et aussi ce docteur Sophie Fégueux, les personnes qui voyagent, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, nous disent, lorsqu'elles viennent à la radio, qu'elles constatent que les mesures sont très sérieuses et bien respectées à l'aéroport d'Abidjan, prise de température, questionnaire, gel hydroalcoolique, alors que lorsque l'on atterrit à Paris, rien. Pourquoi ? Docteur Sophie Fégueux.
Bon, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de mesures, on peut pas dire qu'il y a rien, il y a un certain nombre de mesures qui sont réalisées aux aéroports. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que la circulation dans les aéroports, elle a énormément diminué, hein, c'est moins 80%, donc il y a beaucoup moins de circulation de gens qui partent à l'étranger. Mais il y a beaucoup de... D'abord, il y a des pays où on peut pas aller. Puis, il y a un certain nombre de contrôles qui ne sont pas pour tous les pays. Il y a une liste de pays, en fait, pour lesquels ils s'appliquent. C'est surtout les pays où il y a un taux élevé de personnes contaminées. Mmh. Donc, c'est vrai que ça dépend du pays d'où on arrive.
Docteur Anomarin, est-ce que les mesures sont bien respectées à l'aéroport d'Abidjan ?
Ah oui,
pour les voyageurs.
Pour les voyageurs. J'ai eu l'occasion de voyager moi-même, étant médecin Afrique d'une multinationale. Je pense que dans tous les pays, j'ai eu l'occasion de faire le Libéria la semaine passée. J'ai fait le Bénin et les mesures sont vraiment respectées. Ici, en Côte d'Ivoire, les nouvelles lois qui vont rentrer maintenant en vigueur, nous sommes en train de voir la faisabilité, c'est que pour tout départ et tout arrivée sur le territoire ivoirien, par l'aéroport, il faut un test PCR négatif. Maintenant, avec la permission de Sophie, est-ce que ces tests-là sont 100% fiables? Parce que si aujourd'hui, le test, comme nous sommes en médecine, nous savons que certains examens, ce n'est pas 100%. Alors, c'est ces petits échappés-là qui nous créent. Et après ça, il y a les entrées par voie terrestre et qui, aujourd'hui, nous savons que nos frontières sont assez poreuses. Donc, est-ce que les contrôles aux frontières se font normalement? Au niveau de l'aéroport, c'est bien. Je connais le chef de service aéroportier de l'INHP avec lequel je change régulièrement. Ça va, ça se passe bien. C'est notre souci, c'est au niveau des frontières terrestres. Lorsque nous savions les communautés de vie de part et d'autre des frontières, est-ce que là-bas les mesures sont assez rigoureuses? Mais je pense que le contrôle, il est fait au départ comme à l'arrivée d'Abidjan. Lorsque vous venez à Abidjan, par exemple, que vous n'avez pas un test sur vous, immédiatement on vous achemine au centre pour faire le test, hein, et on vous met sous quatorzaine le temps qu'on ait le résultat. Heureusement, maintenant, nous avions des chiffres et nous avions la possibilité d'avoir des tests ici aujourd'hui en 24 heures. Et je le confirme parce que j'ai des expatriés qui retournent en France cette semaine et la semaine prochaine. On fait le test ce matin, le lendemain, on a le test par voie électronique. Et on a les résultats.
Sophie Fégueux, alors pour contrer la propagation du virus, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, dont l'instauration d'un couvre-feu. Hein. Alors en tant que médecin, pensez-vous que cette mesure peut permettre le ralentissement de la propagation du virus ?
Comme je vous l'ai dit, je crois qu'on a des exemples qui montrent que ce qui compte en fait, c'est de diminuer ce qu'on appelle les interactions sociales, c'est-à-dire les moments où les gens se rencontrent sans faire très attention. Donc on sait bien qu'il y en a une bonne partie qui sont quand même le soir. Donc les exemples qu'on a, c'est que le couvre-feu, c'est une mesure qui quand même peut bien marcher. Bien sûr, il faut que les gens fassent tous des efforts. Donc, on essaie de sensibiliser tout le monde. Hein. Là, vous avez vu qu'il y a une campagne de la Caisse d'assurance maladie qui rappelle à nouveau les gestes barrières. Mais bon, on espère vraiment que ces mesures de couvre-feu, qui devront peut-être être étendues, d'ailleurs, parce qu'on voit bien qu'il y a d'autres grandes villes qui sont quand même pas mal atteintes. On espère vraiment que ça va avoir une efficacité pour ralentir cette évolution.
Des pays comme l'Irlande ont annoncé un reconfinement de plusieurs semaines. Est-ce que si le couvre-feu ne donne pas de résultats tangibles, une telle mesure pourrait être annoncée en France ?
Alors, ces mesures-là, c'est des mesures politiques. Hein. C'est pas les médecins comme moi qui vont vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. En tout cas, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que le couvre-feu, c'est une mesure quand même qui a vraiment des chances d'être efficace. Mais il faut aussi que tout le monde se sente concerné. Et alors, il y a une mesure dont on n'avait pas tellement parlé jusque-là, mais qui est très importante avec l'arrivée de l'hiver aussi, c'est l'aération, c'est-à-dire c'est d'ouvrir chez soi, donc chacun peut le faire, de bien aérer régulièrement, que ce soit chez soi ou à son travail, parce qu'on sait que le virus, il est aussi dans les aérosols à l'intérieur. Mmh. Voilà, donc ça, c'est une mesure de plus que tout le monde doit essayer d'appliquer, bien aérer chez soi.
Alors, quelles sont, Sophie Fégul, les alternatives efficaces au reconfinement pour empêcher la propagation du virus ?
C'est un peu ce qu'on disait. Hein. D'abord, c'est d'essayer de sensibiliser tout le monde aux mesures, hein, de rester à distance des gens, de ne pas les embrasser, de ne pas serrer les mains, de ne pas cracher. Enfin, voilà, toutes les mesures qu'on répète depuis longtemps. Faut vraiment que les gens se sentent concernés. Et puis, donc, les mesures qui ont été mises en place de couvre-feu, c'est très important. Et puis, la partie, ce qui est très important aussi, c'est de se dépister quand on a des signes, hein, de faire un dépistage. Et si on est positif, de rester chez soi, d'être isolé et de ne pas contaminer les autres. Mmh. C'est vraiment une partie citoyenne qui est très, très importante.
En effet, il est plus facile aujourd'hui de se faire tester. Cependant, il faut souvent patienter pour avoir les résultats, plusieurs jours, voire une semaine. Pourquoi est-ce si long, docteur Sophie Fégueux ?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu, il y a quelques semaines des très gros problèmes. Donc il y a eu des réorganisations, des priorisations. Donc maintenant, ça s'est quand même beaucoup amélioré. Hein. Maintenant, la moyenne, c'est 1,2 jours pour avoir les résultats. Donc, il y a 86%, c'est en moins de 2 jours. Donc, ça devient très, très rare. Ça peut exister toujours, mais ce qu'on a connu il y a quelques semaines, maintenant, ça devient très rare. Et puis, par ailleurs, comme on disait au début de l'émission, il y a cette mise en place de tests rapides, hein, de tests antigéniques, qui va permettre d'accélérer les choses, puisqu'on pourra avoir des résultats dans la demi-heure qui suit.
Alors, on a pas mal entendu parler des faux positifs, hein, par exemple. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les tests sont efficaces à 100%, Sophie Fégueux ?
Alors, c'est pas tellement les faux positifs. C'est-à-dire, quand vous êtes positif avec ces tests, en général, c'est que vous êtes bien positif. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Le souci, c'est plutôt qu'ils peuvent être négatifs, alors qu'en fait, vous êtes positif. Parce que c'est moins sensible, on détecte moins bien. Donc ça ne remplace pas totalement les tests classiques, hein, mais ça permet quand même d'avoir un résultat quand même satisfaisant. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a certaines personnes qui vont revenir négatives alors qu'en fait, elles sont positives. Donc, on garde ça en tête et on ne fait pas les tests antigéniques dans toutes les situations. Mais c'est quand même un gros progrès de pouvoir faire ça.
Alors, comment fonctionnent les nouveaux tests salivaires ? Sont-ils fiables et est-ce qu'ils vont être généralisés ?
Alors, pour l'instant, ce qui est sorti, là, c'est les tests antigéniques. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est toujours les tests dans le nez. La différence, c'est que donc on passe sur un petit système comme pour un test de grossesse et ça va très vite. Les tests salivaires, ça va être un peu différent, donc ça c'est pas encore généralisé. Ça pose aussi des problèmes parce qu'on trouve moins bien dans la salive que à l'intérieur du nez, quoi, au fond de la gorge et dans le nez. C'est là où on trouve le plus de virus.
Est-ce qu'ils sont, ils seront aussi remboursés à 100% selon vous ?
Oui, probablement. Enfin, ça, c'est bien sûr le gouvernement qui décide. Mais donc, on va avoir toute une panoplie de tests. Alors après, il faudra bien connaître dans quelle indication on peut faire tel ou tel test. En sachant que ce qui reste le test de base, hein, le meilleur, c'est le test PCR avec le prélèvement dans le nez, comme on le connaît. Mais donc les possibilités sont en train de s'élargir pour pouvoir faire d'autres tests.
Alors quel est le suivi en fait des personnes qui ont été infectées ? Combien de temps après leur infection sont-elles suivies par les autorités sanitaires ?
C'est surtout quand même les médecins qui vont les suivre, hein, ça va vraiment dépendre des cas, parce qu'il y a des gens qui vont guérir une fois que l'infection est terminée, au bout d'une semaine ou 15 jours, ils n'auront plus de problème. C'est vrai qu'il y a d'autres gens, on en a parlé dans la dernière émission, qui peuvent avoir des signes, en particulier de la fatigue qui dure plus longtemps. Il y a des gens qui font de la rééducation, qui sont suivis régulièrement pendant quelques semaines, voire quelques mois.
Oui, justement, parce que, par exemple, moi j'ai été infectée par le Covid, et un mois après l'infection, j'ai reçu un appel de l'ARS qui me demandait si je voulais refaire un test, en fait. Et la personne m'a dit, puisqu'il y a des personnes un mois après qui ont toujours certains signes.
Alors, enfin, il y a deux choses différentes. Il y a d'abord des gens qui ont des signes, hein, qui restent. Donc, par exemple, la fatigue, alors que leur test s'est négativé. Et puis, on sait qu'on peut, par ailleurs, on sait qu'on peut encore retrouver un peu de virus au bout de plusieurs semaines. Mais en général, c'est des quantités très faibles, donc qui probablement sont pas contaminantes, mais on peut en trouver encore un peu. Donc je ne sais pas pourquoi l'ARS avait rappelé, mais en tout cas, je pense que le plus important, c'est les gens qui ne se sentent pas bien, qui sont fatigués. Eux, c'est important qu'ils se fassent suivre par leur médecin s'ils n'ont pas récupéré complètement leur état de santé.
Alors, docteur Sophie Fégueux, quelles grandes inconnues persistent dans notre compréhension du nouveau coronavirus ?
Je dirais, il y a pas mal de choses. Il y a déjà, par exemple, combien de temps l'immunité va durer. Hein, on n'a pas assez de recul. Il y a une étude qui a montré qu'au bout de 4 mois, il y avait toujours une immunité qui était satisfaisante. Mais c'est une infection récente, hein, donc on n'a pas suffisamment de recul. On a parlé aussi du problème des gens qui gardent une fatigue importante. Donc il faut voir ce que ça va donner dans le temps. Et puis, bien sûr, les questions qu'on se pose à l'heure actuelle, c'est toutes les questions autour de la vaccination. Parce que quand est-ce qu'on aura un vaccin efficace qui soit bien toléré? Quand est-ce qu'on pourra la population pourra le recevoir? Voilà, en ce moment, on pense aussi beaucoup à ça.